Cascodeur Podcast, épisode 115. Interview de Sam Bessala sur la data science, Hadoop et Mesos. Enregistré le 16 décembre 2014.
Bonjour, bienvenue à tous pour l'épisode des Cascodeurs interview numéro 115 déjà. On est le 16 décembre 2014, faut pas se tromper. Et aujourd'hui, je suis avec Sam Bessala. Bonjour Sam.
Bonjour Arnaud.
Et on va parler donc de données. Alors de données, c'est un terme très générique. Les données, il y en a dans nos SI depuis quelques dizaines d'années, sous toute forme, toute taille. Il y a eu pas mal de révolutions, on va dire, quand même, ces dernières années, avec la multiplication de la taille des données qu'on peut gérer. Quand on voit des entreprises comme Facebook ou Twitter qui comptent des centaines de millions d'utilisateurs, enfin c'est quand même hallucinant. C'est quelque chose qu'on pouvait même pas imaginer. Je sais pas, il y a 10 ans, 15 ans quand j'ai commencé personnellement ma carrière. Ça remonte, mais dans les années 2000, imaginez des plateformes comme Facebook ou Twitter avec des centaines de millions d'utilisateurs. Enfin, je regardais les chiffres, c'est juste hallucinant. Et donc, il y a une émergence à la fois de nouveaux métiers, on va dire, ou tout du moins une révolution des métiers qui concernent les données, et puis de l'outillage qui va autour. Et on va en discuter aujourd'hui avec Sam. Donc, bienvenue Sam, je te propose de te présenter. Qui tu es, qu'est-ce que tu fais, où tu viens, d'où tu vas, quelle est ta vie, ton œuvre?
Ah, ma vie, mon œuvre, vaste sujet. Oui, enfin, façon de parler. Oui, donc, je suis Sam Bessala, je suis développeur freelance et je travaille plutôt depuis quelques temps maintenant sur tout ce qu'on appelle Big Data. Donc ça englobe beaucoup de choses, donc ça part aussi bien de la partie architecture, de créer tous les systèmes qui traitent des gros volumes de données comme ceux dont Arnaud parlait tout à l'heure, mais aussi au-delà de ces systèmes, mais aussi de la manière dont on traite les données, donc les algorithmes, ce qu'on appelle aujourd'hui la data science. Donc oui, accidentellement, je suis parti plutôt du développeur qui, après ses études, a fait j'étais à l'INRIA pendant un moment, puis je suis allé aux Pays-Bas, et c'est là que j'ai commencé à travailler là-dessus, et en revenant ici, c'est le moment où ça a explosé, au moment où je suis revenu en France, et c'est là où il y a eu l'explosion de tout ce qui est Big Data, et depuis, donc, je suis un peu dans ce milieu. Voilà. D'accord.
Et donc tu le disais, il y a des nouvelles carrières qui s'offrent à nous aujourd'hui, et donc notamment le data scientist.
Exactement.
Alors c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? C'est nouveau? C'est ancien? C'est juste un revamping? Vas-y.
dans le monde de la techno, je crois que tu le sais mieux que moi. On aime bien réinventer les termes.
Ouais, c'est ça. Des buzzwords.
Des buzzwords, c'est une façon de redéfinir ou bien de donner un peu un nouveau scope à quelque chose qui existe déjà. Mais oui, avant de définir data scientist, qui est un terme que je n'aime pas spécifiquement, mais essayer de définir ce que c'est un peu la data science en général, en fait.
Vas-y.
Voilà. Donc, ce qu'on appelle data science, ça va bien au-delà. C'est de ce qu'on appelle le big data, en fait. C'est une science qu'on peut faire de la data science sur des volumes de données qui sont pas vraiment énormes. En fait, data science, c'est un mélange de plusieurs sciences en même temps. C'est, en gros, prendre des données sur des sources différentes et très variées, la traiter, créer des produits à partir de ces données, des produits, et quand on parle des produits sur des données, c'est des produits qu'on utilise tous, aujourd'hui sur Internet, que ça soit des systèmes de recommandation sur Amazon, la manière dont Facebook nous affiche la timeline, c'est comment LinkedIn nous recommande des gens, détecter la fraude sur les paiements, enfin c'est beaucoup de choses. Tous ces produits, tous ces éléments qu'on utilise sur Internet ou ailleurs sont basés sur des données. Donc en gros, sur l'utilisation qu'on fait de ces services au fur et à mesure, on garde les logs, on regarde nos patterns d'utilisation, et de ces patterns, on essaie de construire des produits qui permettent de ce qui s'optimise au fur et à mesure qu'on les utilise. Et ça, c'est la donnée. Et pour ce faire, ça inclut plusieurs sciences, plusieurs disciplines différentes. Et beaucoup de ces disciplines sont difficiles à trouver chez une seule personne, en fait. Donc, c'est aussi bien du développement logiciel, en fait, de l'ingénierie logicielle, normale, des statistiques, parce qu'il faut comprendre comment les données sont, comprendre comment les données sont distribuées, comprendre des maths, des mathématiques, de la visualisation, donc comprendre l'interface homme-machine pour pouvoir présenter correctement ces données. Et aussi une partie de plus en plus importante qui est une science qui vient de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle le machine learning.
D'accord.
Et le machine learning, c'est partir des données pour faire de la prédiction après. Et ça, c'est ce qu'on appelle la data science. Donc,
d'accord.
Tu vois bien que je définis plusieurs scopes différentes qui sont quasiment difficiles ou voire impossibles à trouver chez une seule personne. Donc, quand on définit aujourd'hui le terme de data scientist, enfin, chacun sa définition de ce que c'est qu'un data scientist.
D'accord.
Il y en a qui vous diront qu'un data scientist, c'est un développeur qui connaît plus de statistiques que la majorité des développeurs, ou bien un statisticien qui sait développer. Donc,
d'accord. Voilà.
Ou bien d'autres diront qu'un data scientist, en fait, c'est un statisticien qui vit dans la Silicon Valley. Donc, il y a plein de petits trolls comme ça sur le terme de data science sur Internet. Et en fait, il y a Drew Conway, qui est un data scientist connu. Enfin, il y a beaucoup de stars dans ce milieu, là.
Ouais.
Qui a défini, en fait, ce qu'on appelle un diagramme de Venn, en fait, qui décrit, en fait, les différentes discipline qui inclut en fait les skills qu'il faut avoir pour devenir data scientist, et ça va de beaucoup de choses mais vraiment assez énorme, et aussi bien être hacker, en fait, c'est-à-dire bidouiller, écrire du code, extraire des données de différentes sources, connaître les systèmes, parce que quand on travaille sur des volumes de données, en général c'est sur des clusters de machines, donc c'est des systèmes distribués qu'il faut bien connaître. Connaître le business du métier, en gros le métier en fait sur lequel les données viennent, parce que les données qui viennent du monde médical ne sont pas toujours pareilles que les données qui viennent du monde de la finance.
Ouais,
faut faire très attention, et chaque donnée a sa propriété, donc comprendre le business, c'est vraiment important, et aussi avoir au moins un background en informatique, un background en mathématiques, en machine learning, comprendre des statistiques. Donc voilà, ça englobe beaucoup de choses, mais aujourd'hui quand on parle de data scientist, de plus en plus l'abus de langage qui est fait, c'est la personne qui traite de la donnée, qui fait du machine learning dessus. Et donc il y a une science derrière qu'on appelle le data engineering, qui est le mec qui se tape les bases de données, qui fait toute la partie système, développement et tout, qui crée en fait les plateformes et l'infrastructure pour gérer tout ça.
D'accord.
Voilà.
Okay. Donc là, tu expliques tous les domaines. Donc bon, on va peut-être pas trop traiter aujourd'hui de la partie métier pur des données. Là, effectivement.
Exactement.
Donc ce qu'on voit, c'est que ça s'applique finalement donc à tous les cœurs de métier. Finalement, le data scientist, il a sa place partout. On peut le retrouver dans n'importe quel type d'entreprise.
Exactement.
Ce que je comprends. Donc, mais par contre, là, nous, on va plutôt s'intéresser à la partie, on va dire, technique aujourd'hui, puisque c'est quand même ton dada à toi.
Oui.
Et donc, alors justement, tu parlais de plateforme pour traiter ces données, pour les manipuler. C'est quoi aujourd'hui les plateformes? Moi, j'ai fait ça il y a très très longtemps dans une ancienne vie. J'ai commencé en tant que consultant sur des plateformes qui s'appelaient à l'époque, on appelait ça des EAI, des ETL. Les sources de données, c'était des bases de données, c'était de l'Oracle, c'était du DB2, c'était même des mainframes avec des fichiers EBCDIC qui traînaient.
Dans le monde réel, je pense pas que ça ait tant changé que ça.
Oui, c'est ça. Donc je pense que ceux-là, ils sont toujours là. Ça existe toujours, ces sources de données, et ça doit faire partie des puits d'informations sur lesquels continuent d'être faits, justement, ce que tu disais, toutes les analyses, et il y en a toujours une bonne partie qui sont là-dedans. Et donc aujourd'hui, finalement, c'est quoi les nouvelles plateformes pour traiter la donnée, pour gérer ces données qu'on a dans les entreprises?
En fait, c'est bien que tu me rappelles ça, que tu me parles de tout ce qui est EAI, ETL, toutes ces grosses plateformes, parce que justement, avant de rentrer dans les plateformes, pour essayer de revenir un peu dans ce qu'on disait sur les data scientists, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont des data analysts qu'on connaît depuis longtemps, qui utilisent des systèmes comme SAS, MATLAB, qui travaillent ce qu'on appelle la BI habituelle, du business intelligence, faire du reporting sur des données et tout. Beaucoup de ce monde-là, en fait, se définissent comme data scientists quasiment aujourd'hui, en fait.
C'est ça, en fait, c'est un peu l'héritage, parce que
exactement.
Tous les data warehouse qu'on avait, après, c'est vrai que c'était c'était à l'époque des structures très, très centralisées, c'était des grosses bases de données, des gros serveurs. Aujourd'hui, ça certainement plus, c'est plutôt parti vers de la décentralisation, mais c'est vrai qu'à l'époque, l'époque, enfin il y a 10 ou 15 ans, c'était ces personnes-là qui géraient les données et qui en extraient, qui faisaient de l'extraction de d'informations business qu'on pouvait derrière utiliser pour bah voilà pour créer.
Exactement. Exactement. C'est que ce qui est un peu différent en fait du métier de business intelligence qu'on avait avant et de la data science aujourd'hui, c'est aussi bien le volume que le type de prédiction qu'il faut faire là-dessus. Donc en gros, avant, on avait des data warehouse comme tu le dis, donc on avait des données qui venaient avec des gros tons, enfin on n'était pas pressé, on les mettait dans un gros entrepôt.
Ouais, c'est ça.
On mettait des scripts pour faire de l'ETL, voilà. Et on extrait les données, ces données, on les mettait quelque part, on faisait tourner nos gros ERP là-dessus, de l'Oracle, du SAP, ce genre de choses. Enfin, ça se fait toujours aujourd'hui, hein, du
je
SAP.
Je suppose, tout à fait.
Ça marche toujours, c'est toujours un job, et ça a toujours une importance. Ce qui a différencié, en fait, c'est le monde du web.
Ouais.
Donc, c'est le monde du web, Facebook, Google, qui sont partis différemment, dans un monde différent, parce que eux, le volume que traite une entreprise habituelle, une très grosse entreprise qui a des téraoctets de données de façon habituelle, eux, c'est quasiment le volume qu'ils ont tous les jours, en fait.
Oui, c'est ça, parce que les entreprises classiques, enfin, même si on prend des grosses multinationales,
voilà.
Elles vont compter le nombre de clients ou de comptes, enfin, d'entités business, ça va se compter en milliers, peut-être en centaines de milliers, de temps en temps millions, mais là, effectivement, quand on voit les Facebook, les Twitter, ça, c'est des centaines de millions,
c'est
des milliards d'utilisateurs.
C'est des pétaoctets par jour.
Ouais, c'est ça, c'est hallucinant. Ok.
Voilà, donc c'est un peu ça, c'est ce qui évolue en fait, c'est ce qui fait que ça devient plus compliqué à gérer. Donc du coup, il y a des nouvelles plateformes qui sont arrivées, donc il y a ce qu'on appelle le MapReduce en fait, c'est Google qui a lancé un peu la mode là-dedans en sortant le papier Google File System,
ouais.
En fait. Et un autre papier qui est MapReduce, Google File System, c'est un système de fichiers qui est distribué, qui est très redondant et qui garantit en fait sur plusieurs nœuds, sur du commodity hardware, sur des machines donc pas chères en fait,
c'est
de
ça.
Créer des gros clusters pour gérer de la donnée de façon efficace, en gros pour stocker de la donnée de façon efficace. Donc c'est un système de fichiers distribués. Et donc au fur et à mesure, chaque fois que Google sort un papier, donc il y a des gens qui prennent ces papiers. En l'occurrence, c'était Yahoo et DuckDuckGoing en fait, celui qui a créé Lucene, qui ont créé Hadoop, qui est la plateforme dont on parle le plus. Donc Hadoop, c'est une grosse stack, c'est pas juste un seul truc, c'est plusieurs éléments. Il y a un système de fichiers qui est HDFS et il y a des modules de traitement de données au-dessus. Le module principal qui est venu avec Hadoop, c'est MapReduce. MapReduce, c'est ce que Google a traité, en gros, traiter des données de façon distribuée en s'assurant qu'en fait chaque donnée est traitée de façon locale. Donc en gros, il y a ce qu'on appelle la data locality. Quand on traite une donnée sur ces plateformes, on évite de faire bouger les données sur le réseau dans tous les sens. Donc en gros, on envoie le calcul sur des nœuds de façon locale et après on extrait les résultats pour faire des agrégations au fur et à mesure. Donc en fait, c'est ça. C'est donc en gros sur du commodity hardware, des systèmes distribués et des papiers sont arrivés là-dessus. Et du coup, les paradigmes de traitement de données, ce dont tu me parlais, que ce soit EAI ou ETL, ont carrément changé en fait dans le monde Hadoop. Parce que dans le monde Hadoop, on ne parle plus de ETL, où on fait de l'extraction, on transforme, puis on les charge quelque part pour être analysé, pour faire du reporting. Dans le monde du web, ou même dans le monde des entreprises, ou le monde de Hadoop, c'est que on fait de l'extraction, on extrait de plusieurs sources différentes de données, que ce soit des logs de machines, des logs d'utilisation d'un service, qui sont dans tous les sens. On les charge à un endroit, dans HDFS, qui est l'entrepôt de Hadoop, en fait, le système de fichiers. Et de là, en fait, on fait de la transformation sur ces données pour extraire de la valeur et créer des produits là-dessus. Donc, le cycle où était dont on extrait des données quelque part, on les transforme plus, ou on les met quelque part qui était quasi linéaire, en fait. Là, il est plus du tout linéaire parce que tu as plusieurs sources qui sont différentes. L'ETL se transforme en ELT dans le monde Hadoop, en fait.
D'accord,
c'est ça, en fait.
Okay.
Donc, il y a un paradigme qui est assez différent. Et donc, dans le monde Hadoop résolvait un problème qui était très intéressant en 2007, 2008, 2009, toutes ces années quand ça a commencé à bouger, ça a explosé. Mais le modèle de travail de Hadoop qui est en fait sur disque en fait, parce qu'il veut garantir en fait que nos traitements, on perd pas de données pendant nos traitements, donc beaucoup de ces traitements se font sur du disque, c'est très coûteux en temps de latence. Et en termes de performance, donc en gros, c'est des systèmes qui étaient très orientés batch. Hadoop, c'est un système qui est du gros batch, un gros batch distribué qui peut traiter d'énormes volumes de données. Mais Du moment où on a envie d'avoir des traitements plus agiles en temps réel, traiter, faire des transformations bien plus complexes, comme sur du machine learning, des statistiques, Hadoop a montré beaucoup de limites en soi en fait. Et du coup, il y a eu une émergence de nouvelles plateformes autour d'Hadoop. Donc en gros, on a voulu faire du SQL sur des données qui sont sur HDFS. On a créé des systèmes comme Hive. Mais Hive, en fait, au-dessus, c'était, il transformait du code qui allait dans du Hadoop, dans du MapReduce, et du MapReduce qui était généré sur les données. Et on a créé des entrepôts distribués qui viennent des bases de données comme Teradata, en fait, des systèmes qu'on appelle des MPP, des Massively Parallelized Databases, en fait, c'est des bases de données massives et parallèles. Donc, on a créé ce genre de système, mais en se passant, en fait, du modèle de traitement par défaut qui était au départ MapReduce. Donc on a créé ce qu'on appelle des choses comme Impala, comme Taze, comme Shark, qui en fait, on garde HDFS, mais au-dessus de HDFS, il y a d'autres systèmes qui peuvent tourner sur la même plateforme en fait. Donc il y a des plateformes pour faire du SQL de façon agile là-dessus, et de façon rapide, hein, des plateformes de machine learning, et des plateformes de traitement en mémoire, comme Spark, qui on en parlera peut-être tout à l'heure, et on a des plateformes de traitement de données en temps réel comme Storm aussi. Storm qui est en fait du Hadoop mais pour des temps de latence très bas. C'est quelque chose qui a été créé chez Twitter pendant longtemps mais qui est de plus en plus utilisé aujourd'hui dans les entreprises. Donc c'est un monde qui est assez vaste, le monde de Big Data, et en général c'est drivé par en fait le genre de traitement, le genre de travail qu'on veut faire.
D'accord.
Donc, voilà. Donc, si je sais pas si tu veux qu'on parle du monde Hadoop en soi lui-même et
dans bah, est-ce que déjà, enfin, par rapport, il y a que le monde Hadoop parce que là, tu parles beaucoup du monde Hadoop, mais il y a d'autres concurrents ou il y a d'autres où c'est vraiment tellement omniprésent aujourd'hui que ça a effacé la concurrence.
En fait, c'est parce que tout simplement, Hadoop c'est quand même ce qu'on appelle la darling du monde Big Data, là, la chérie, là, l'enfant chéri en fait du monde Big Data, tout simplement parce que c'est il y a eu un gros hype autour d'Hadoop, mais parce qu'il résolvait un problème. Et comme je disais, ça a montré ses limites. Et donc, on a créé de nouveaux produits qui tournent, en fait, soit sur Hadoop ou qui sont complètement indépendants d'Hadoop.
Ouais.
Et ces produits, en fait, ce dont je parle, c'est comme Spark.
Ouais, c'est
et
ça.
Et voilà, Spark a été créé pour essayer de faire ce que fait Hadoop, mais en mieux, qui fait tous les traitements en mémoire. Qui est en fait un système de data flow, c'est-à-dire qui crée une sorte de graphe de traitement de données en mémoire et qui est distribué sur plusieurs machines. Et l'avantage de Spark, c'est qu'il permet de travailler aussi bien sur Hadoop que sur des plateformes qui n'ont rien à voir avec Hadoop. Et ce que Spark permet de faire, c'est ce qui était très compliqué à faire dans Hadoop, c'est de faire, par exemple, des traitements de machine learning.
D'accord.
Les algorithmes de machine learning sont des algorithmes qui sont hautement itératifs, c'est-à-dire qu'on fait tourner beaucoup de choses. Donc imagine si tu fais tourner le même algorithme de façon itérative sur des données qui sont chaque fois réécrire des données intermédiaires sur du disque comme on le fait dans MapReduce natif dans le monde Hadoop. C'est très coûteux en termes de performance. Ouais. Et surtout, le modèle de MapReduce, c'est un modèle qui était sur lequel il était vraiment difficile de raisonner, en fait. Enfin, on arrive à raisonner quand on veut faire des transformations assez simples, comme des opérations d'ETL, prendre des données, les transformer, les mettre quelque part. Ça, c'est pas grave. On arrive à le faire de façon sans problème. On arrive à le faire de façon correcte et à le définir de façon très simple. Mais dès qu'on veut rentrer dans de l'algorithmique un peu plus complexe sur des choses où on a des maths qui sont très avancées, par exemple des traitements de graphes, des traitements plus bas niveau ou des traitements pour optimiser un peu comment nos fonctions, faire de l'optimisation convexe, ça devient très compliqué à faire sur du MapReduce parce que déjà c'est pas quelque chose qui est c'est la programmation est distribuée. Et c'est pas quelque chose que tout le monde arrive à comprendre de façon simple en fait. Et c'est là qu'il y a eu l'émergence de nouvelles plateformes. Donc il y a des éléments comme Spark qui est celui dont on parle le plus aujourd'hui en fait. Et donc Spark travaille de plus à un modèle qui se différencie de ce qu'est Hadoop. Donc Spark peut prendre des données de n'importe quel type de source, que ça soit une base de données comme Cassandra par exemple, que ça soit S3 sur Azure, que ça soit HDFS. Il les lit en mémoire et Spark, comme Hadoop travaille sur des clusters de données, hein, travailler en local ou bien sur des clusters, garde les données en mémoire, il a son cache en mémoire en gardant les données distribuées. Donc, ce qui permet d'avoir une vision de la donnée comme étant une sorte de monolithique, un monolithe qui est distribué, en fait, sur des nœuds, faire des transformations sur des collections, La manière dont on modélise les données dans Spark, c'est comme de simples collections. Donc, on a une liste, on dit une liste de données, on l'appelle liste. Mais la liste, pour nous, elle est transparente parce qu'on la voit comme une simple liste toute simple. En fait, c'est une collection de données qui est distribuée sur plusieurs nœuds. Et donc, Spark fait le boulot de garantir la consistance des données telles qu'on la lit sur les différents nœuds. Il fournit un DSL, en gros, une API de traitement de données qui est plus lisible et plus concise pour écrire les algorithmes. Bon, c'est écrit en Scala, donc c'est beaucoup de fonctions qu'on arrive à renvoyer sur des réseaux, qu'on arrive à faire des transformations très simples. Il y a beaucoup de composabilité. Et définir un algorithme qui était très complexe, par exemple le Hello World du monde Big Data, c'est compter des mots en fait, le word count. Ouais. Sur Hadoop, il prend des mots en MapReduce, des longueurs en MapReduce natif. Bah, sur Spark, il doit prendre quelque chose comme 3 ou 4 lignes. Tout simplement parce qu'on l'exprime de façon simple. Donc, le DSL et la manière d'écrire du code en Spark est simple. Et ce qui fait que ça a pris une adoption, mais assez fulgurante, en fait. L'explosion de Spark a été assez grande. Moi, je me souviens encore, je travaillais sur Spark il y a 3 ans maintenant. Il y a 2 ans et demi. C'était assez nouveau. C'était un truc de chercheur et tout. Et pour les gens qui regardaient ça, on essaie déjà de comprendre Hadoop, aller sur un truc nouveau, et d'un seul coup, l'adoption a été tellement fulgurante parce que même les vendeurs, en fait, les gens qui vendent du support sur Hadoop se sont mis à fournir du Spark en plus de leur distribution.
D'accord.
Et c'est ce qui fait l'adoption, en fait, de ce truc. Donc, il n'y a pas que Spark, il y a Hadoop, il y a des systèmes de traitement de graphes comme GraphLab qui existent, des systèmes de traitement de données en temps réel comme Storm aussi qui existent et tout. En fait, il y a un monde de frameworks qui sont assez larges. Tous ces frameworks ils gravitent dans l'écosystème Big Data, mais il n'empêche que le gros du truc, ça reste quand même Hadoop aujourd'hui. Pourquoi? D'accord. Parce que Hadoop était là depuis longtemps, donc il y a eu un gros changement de paradigme des systèmes qu'on avait avant pour passer à Hadoop. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on continue encore à avoir du Hadoop qui reste au milieu, même si de plus en plus, il y a du remplacement, il y a des gens qui construisent des plateformes Big Data au-delà du Hadoop en utilisant des bases de données comme Cassandra, ou bien de Cassandra, au-dessus de Cassandra, on met n'importe quel système de traitement, que ce soit Spark et tout, ou bien du MapReduce directement sur Cassandra. En fait, c'est un monde qui évolue, quoi. Voilà.
Mais dans ce cas-là, s'ils ont pas de Hadoop, c'est qu'ils proposent d'autres solutions alternatives pour gérer cette répartition sous forme de cluster de la donnée, enfin du traitement, la répartition des données, des traitements, c'est que eux fournissent des solutions alternatives. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve avec des tonnes de données qui sont à la fois sur du NoSQL ou du SQL ou de n'importe quelle source d'ailleurs. Donc c'est un véritable monde à lui tout seul, le NoSQL avec le nombre de bases et de types de bases qui existent, etc. Et on a une plateforme généralement donc qui peut être Hadoop, mais il y en a quelques autres, mais c'est quand même Hadoop qui est la plus utilisée, qui elle va te permettre de gérer cette distribution et ensuite pas mal de services au-dessus comme Spark pour traiter les données et pour justement donc améliorer les performances, etc.
Exactement.
Ok. Et donc point de vue parce que donc ça c'est, j'imagine bien, donc là t'as tout ton environnement pour à la fois faire tes traitements et gérer les données, où est-ce que ça rentre, où est-ce que ça sort, etc. Mais comment est-ce que tu mets ça en place après sur une infrastructure, parce que là, la plateforme, donc effectivement elle va gérer la clusterabilité donc de tous les traitements, le fait que tu disais de déployer les données à un endroit pour pas qu'elles bougent et de faire les traitements dessus, et toi tu fais ça d'une manière donc plus ou moins simple avec des frameworks au-dessus comme Spark pour pouvoir gérer les traitements que tu veux faire, mais derrière ça tourne pas sur un gros serveur comme on avait nous à l'époque, justement des mainframes et des choses comme ça. C'est là tu vas avoir une myriade de petits serveurs, ce que tu disais, c'est Google qui avait lancé ça, après il y a eu Amazon et autres, mais au lieu d'avoir des grosses machines, on part sur des logiques où on a des tonnes de petites machines qui vont rendre des petits services et qui vont utiliser peu de ressources finalement sur les nœuds.
Voilà, donc c'est ça. Donc avant, justement, pour introduire tout ça, en fait, c'est de se dire, c'est par exemple la première version de Hadoop, c'était j'expliquais, il y avait HDFS et MapReduce, le modèle de traitement de données autour. Et donc évidemment, c'est un système distribué sur des nœuds complètement distribués, sur des gros clusters de plusieurs machines et tout. Et évidemment, il faut pouvoir gérer ces machines. Il faut pouvoir garantir que si une machine tombe, que tout le système ne puisse pas tomber. C'est la tolérance aux pannes, ce genre de problème qu'on qu'on retrouve évidemment dans n'importe quel système distribué. Ouais. Donc, Hadoop, au départ, quand il a commencé, il introduisait en fait un système, tout le système distribué, en gros le cluster manager, celui qui gère tout le cluster, qui ne fait pas de traitement de données, mais en fait qui gère toute la machinerie des machines derrière, était en fait inclus dans le même système en lui tout seul. En fait. Ce qui fait D'accord. que sur les premières versions de Hadoop, ce qu'on appelle Hadoop V1 aujourd'hui, on faisait que tourner un seul type de job. Donc il y avait Hadoop, MapReduce, parce que dès qu'on le lançait sur un cluster, bah, le cluster il gérait que le job qui est tourné, le traitement en fait en MapReduce. Et donc ils ont voulu séparer ça pour le rendre plus modulaire. Donc il y a la partie qui est gestion du cluster sur Hadoop qui a été séparée à part en fait.
D'accord.
HDFS, le système des fichiers qui est à part. Et au-dessus en fait du cluster manager sur différents nœuds, bah ça introduisait le fait qu'on puisse faire tourner des jobs complètement différents, hétérogènes. Donc, ce qui permet que sur un cluster Hadoop, aujourd'hui, ce qu'on appelle Hadoop, quand je dis Hadoop, on fait, en fait, en réalité, c'est HTFS maintenant, hein. C'est, en D'accord. gros, le système de fichiers qui est le plus important, c'est là. Pour moi, personnellement, juste, c'est la partie la plus intéressante de Hadoop, c'est son système de fichiers.
D'accord.
Tout le reste, on peut vite s'en passer et trouver des choses plus intéressantes. Donc, la partie du système de fichiers et le cluster manager, on peut introduire des éléments différents. Et le cluster manager par défaut de Hadoop, c'est un système qui s'appelle YARN. Ça s'appelle ouais. Yet Another Resource Negotiator en fait.
Okay.
Qui voilà, encore un nouveau système de gestion de ressources, de négociation de ressources en fait, c'est ça YARN.
D'accord.
Et donc sur un cluster Hadoop dans les nouvelles versions aujourd'hui, bah on peut faire tourner des systèmes qui sont différents et qui n'ont rien à voir avec HTFS ou Hadoop en fait en lui-même. Donc par D'accord. exemple Storm, on peut le faire tourner sur un cluster Hadoop sur les mêmes machines. Spark, on peut le faire tourner sur le même cluster que Hadoop. Donc en gros, on utilise ces ressources de façon efficace. Pourquoi D'accord. c'est intéressant? Parce que en général, dans ce monde des systèmes distribués, dans le monde big data, on a des gros clusters de machines, mais en fait, une fois qu'on a traité nos données, ben nos clusters ne sont pas utilisés de façon efficace. Mmh. En fait, les ressources, quand on regarde l'utilisation des CPU, les graphes, bien de la RAM, du disque et tout, c'est complètement idle. En fait, en gros, le truc il est littéralement plat, quoi. Il n'y a pas grand chose. Et donc l'idée, c'est de pouvoir réutiliser ces ressources de façon efficace. Et il y a plusieurs systèmes qui le font. Et Hadoop, bien sûr, dans la version Hadoop V2, il introduit qui un système qui est YARN. Que moi je connais très peu parce que je l'utilise pas beaucoup. Moi ça fait Hadoop, c'est quelque chose que j'ai utilisé pendant longtemps, mais un système qui m'intéresse le plus que j'utilise de plus en plus aujourd'hui, c'est un truc qui s'appelle Mesos.
D'accord, oui.
Voilà, et Mesos qui fait à peu près ce que fait YARN. Donc Mesos c'est la définition toute simple de Mesos, c'est un cluster manager. Voilà, comme YARN, en gros, on a plusieurs machines et on veut faire tourner des systèmes distribués au-dessus qui sont hétérogènes. On veut sans qu'on puisse se préoccuper de tiens, comment on va gérer telle machine est morte, qu'il faut la remplacer et tout, et pouvoir ajouter de façon dynamiquement des ressources en fait. Donc comment YARN fonctionne et comment Mesos fonctionne, Mesos au-delà d'être un simple cluster manager, en fait, il a une façon de voir, c'est que il introduit un niveau d'indirection en fait au niveau de la façon de traiter les systèmes distribués.
Mm-hmm.
Selon Mesos, dans Mesos en fait tous nos clusters de machines sont considérés comme étant une seule machine géante en fait, une grosse machine. Pour nous, il cache la partie machine, que ça soit sur du cloud ou bien sur du bare metal et tout. Mais pour nous en fait, dans Mesos quand on interagit avec Mesos, on interagit comme quelque chose où on veut avoir des ressources. Donc, si je suis Hadoop et que j'ai quelque chose comme je dois traiter un téra de données et que j'ai besoin de 500 gigas de RAM ou bien de 2 téraoctets de RAM et de quelque chose comme 50 CPU pour faire ces traitements, eh ben Mesos va me fournir les 50 CPU et la RAM pour faire ces traitements.
D'accord.
Donc, j'interagis avec Mesos pas en disant « donne-moi ton machine ». Mais donne-moi tant de ressources.
De ressources, d'accord. Oui, voilà. Donc avant, on avait nos méga gros serveurs lesquels on avait autant de cores ou du moins des threads, etc. Et généralement, ça se terminait plus assez de mémoire ou plus assez de disques, etc.
Voilà.
Et aujourd'hui, on se retrouve avec un système comme Mesos ou donc YARN pour côté Hadoop. Et je suppose qu'il y en a encore d'autres qui, eux, gérer cette abstraction. Donc au niveau ressources, on set up des machines, des petites machines qu'on met sur un cluster qui sont gérées par un Mesos ou un Yarn, et qui donc enregistre à chaque fois pour dire j'ai tant de CPU de dispo, enfin tant de capacité de traitement, de ressources de traitement, on va dire, de mémoire, etc. Ça les met en commun, et après les traitements qui sont au-dessus, eux vont demander ces ressources et donc vont se retrouver distribués là où il faut, là où il y a de la ressource.
Exactement. Donc en Mesos, lui s'occupe de gérer, de faire tourner en fait ses applications sur toutes les machines, mais en fait les applications en question interagissent avec Mesos, pas comme étant tiens, je veux tant de machines sur telle machine, je les garde pour moi, puis je fais tourner mon job. Mais en fait, non, Mesos lui fournit en fait des ressources. En gros, il lui fournit des ressources, lui dit tiens, t'as tant de RAM, tant de CPU, tant de bandwidth de bande passante sur du réseau, et avec ça, tu veux tourner tes jobs. Et Mesos se charge en fait d'instancier sur des machines de l'espace et des ressources, distribuer le traitement sur des différentes machines, en fait, des différentes machines. Et quand les traitements sont finis, bah, ils renvoient le résultat. Et Mesos, avec ça, on peut faire tourner des choses de façon plus poussée. Et la manière dont Mesos fait ça, en fait, donc en gros, si par exemple, j'ai besoin de faire tourner un gros job, que ce soit par exemple Spark, Spark va demander à Mesos, tiens, j'ai besoin, Spark, vu que Spark est très gourmand en mémoire parce qu'il fait tout le travail, en fait, en mémoire, Spark fait tous les traitements en mémoire. Il va demander à Mesos, j'ai besoin de 30 gigas de RAM, par exemple, pour faire un traitement de données. Et ben, Mesos va lui allouer, en fait, des tasks pour traiter ces éléments. Et le framework de Spark va faire tourner, en fait, ses jobs sur des conteneurs. En gros, la manière dont Mesos fournit, en fait, les ressources, il les englobe dans des conteneurs, en fait. En gros, on revient encore au système, au truc à la mode, que ce soit Docker ou bien les control groups, en fait. Là, en l'occurrence, pour ce genre de framework, il utilise des C-groups directement. Donc, il utilise des C-groups dans lesquels il englobe de la RAM, du CPU, et dans les C-groups en question où il englobe les différentes ressources, ces C-groups sont distribués sur chaque nœud où les ressources sont disponibles. Et dans ces ressources, ces conteneurs effectuent des tasks. En gros, des tasks. C'est chaque fois qu'une task est exécutée, eh ben, il y a un niveau au-dessus, au niveau du traitement de ton application, au niveau de Spark, par exemple, il y a un scheduler. Donc, pour faire un résumé de tout ça, il faut se dire que chaque application de traitement sur Mesos est composée de deux éléments. Donc, il y a le scheduler et les exécuteurs. Le scheduler, c'est celui qui s'interagit avec Mesos. Ouais. Mesos dit au scheduler, voilà, il y a tant de ressources dont tu auras besoin ici. Le scheduler lui dit, j'ai besoin de tant de RAM. Mesos lui dit, voilà, j'ai tant de ressources, voilà ce que tu peux en faire. Le scheduler renvoie une réponse à Mesos, et Mesos, en l'occurrence, crée des exécuteurs, en fait, qui sont tournés sur les différentes machines dans des conteneurs, où se font tout le boulot. Et une fois que cela est fait, il renvoie une réponse au scheduler. Et l'avantage par rapport à d'autres systèmes, c'est que Mesos, il n'intervient pas en fait dans l'exécution de chaque élément. Une fois qu'il a loué les ressources, bah les ressources sont exécutées, mais de façon comme si c'était des ressources natives à chaque machine en fait.
D'accord.
Et ce qui fait qu'en fait en termes de performance, on gagne. Maintenant, il y a le coût qui est dû au fait qu'on doit scheduler les deux éléments, de scheduler, de négociation et de faire des offres en fait au niveau des ressources. Mais une fois que ça c'est fait, bah tout le traitement là-dessus, bah il est fait comme sur des conteneurs normaux, sur des machines et tout, et ça il est fait. Et la différence par exemple avec Mesos par rapport à d'autres aussi, c'est que Mesos a ce niveau en fait où il a le scheduler de ton framework. Par exemple, je suis sur Spark a son scheduler, ouais. Et Mesos a son scheduler à lui-même qui gère toutes les machines en dessous. Donc il cache toute la partie en dessous. Et c'est cette partie-là, les applications ne voient pas les machines, et c'est ce scheduler en fait qui gère toutes les machines. Donc ce qui fait qu'on peut faire tourner n'importe quel type d'application là-dessus. Pas seulement des applications big data comme Hadoop, Spark, Storm, tout ce qu'on veut, MPI et tous les autres frameworks qui existent, mais aussi des applications toutes simples comme des applications web. Ou prendre un conteneur tout simple où je dis tiens, j'ai mon Nginx que je veux faire tourner là-dessus, bah je l'envoie à Mesos, et Mesos va me faire tourner mon Nginx sur mes ressources. Ce qui fait que mon cluster en fait Big Data ne sert plus juste à faire tourner mes éléments Big Data, mais en fait je peux l'utiliser de façon efficiente pour faire tourner beaucoup d'autres choses qui ne sont pas que du Big Data.
D'accord.
Et ça en fait on arrive à optimiser ce genre de choses au fur et à mesure aujourd'hui.
Et donc ça rend complètement transparent l'accès à la machine, enfin ou à la ressource machine.
À la ressource, oui, c'est ça.
Ressource machine. Et donc les applis finales, tu disais donc la NGeeks ou autre, donc elles voient finalement comme si c'était un OS. Elles voient le container qui leur est mis à disposition. Donc elles voient en dessous une sorte un Linux, enfin ou autre. Enfin je suppose que c'est plutôt des Linux d'ailleurs.
Oui, c'est des conteneurs Linux. Oui,
c'est
voilà.
Des conteneurs Linux et elles voient leur conteneur Linux à disposition et effectivement dedans on fait ce qu'on veut, que ça soit bah oui du big data. Avec du Spark, des traitements de ce style-là, voilà. ou ce qu'on veut d'autre d'ailleurs, on peut démarrer un Tomcat ou autre chose.
Exactement. Et justement, c'est, comme je disais, Mesos fonctionne avec une idée d'avoir aussi bien un scheduler pour ton application et un exécuteur. En fait, le scheduler et le scheduler qui schedule en fait ton application et les exécuteurs qui sont exécutés sur les différentes machines forment ce qu'on appelle un framework en fait dans Mesos. Mm-hmm. Ça c'est le lingo de Mesos, c'est un framework. Donc un framework pour une application Mesos, c'est et le scheduler qui permet de négocier les ressources avec le scheduler de Mesos, le scheduler actif de Mesos, et les différents exécuteurs qui sont dans des conteneurs sur nos machines en fait. Mais pour l'application, les exécuteurs on le voit pas. Et Mesos fournit une API en fait pour écrire des frameworks. Bon, ça devient assez pénible si chaque fois que je dois faire une application d'écrire un framework. Donc, il y a des frameworks qui sont génériques. En gros, d'accord. Un framework qui permet de faire tourner n'importe quel type d'application sur Mesos. Et le plus connu en fait, c'est un truc qui s'appelle Marathon.
Ouais.
Et Marathon en fait, c'est un PaaS, c'est une plateforme as a service.
D'accord. Dans
Marathon, je peux lui dire, tiens Marathon, j'ai une description d'un fichier, je dis tiens, est-ce que tu peux me faire tourner tel type d'application, une application Rails, une application Ruby? Sur mon truc Mesos, sur mon Mesos. Et Marathon va se charger de l'exécution, en fait. Du coup, le scheduler de Marathon, il est bien plus robuste parce qu'il fait tourner n'importe quel type d'application sur Mesos. Et nous, on n'interagit plus avec Mesos, en fait. On a un pass au-dessus de Mesos.
Ouais.
Donc, c'est quelque chose qui a du vent en poupe en ce moment. Et surtout, un truc qui est avantageux, c'est que sur Marathon, c'est très simple de faire pousser un conteneur dans Marathon. Donc, si on a un conteneur dans un registre particulier, par exemple, dans mon fichier de description, j'ai juste à envoyer sur Marathon, j'ai dit, tiens, j'ai un conteneur Docker qui contient ça, qui est à l'adresse ipython/ipython, fais-moi tourner mon ipython sur mon cluster Mesos, sur mes ressources et tout. Je lui spécifie que j'aurais besoin d'un CPU ou bien de deux CPU de temps de RAM, et Marathon va négocier avec Mesos et va le faire tourner pour moi dans mon cluster de machines. Et avec ça, en fait, ça a tellement évolué, tous ces systèmes, que ce soit Mesos, Marathon, il y en a un autre qui s'appelle Aurora, qui est fait par Twitter aussi,
ouais.
Qui a tellement évolué que, en fait, pendant longtemps, avant qu'il y ait la course et la mode Docker depuis quelques temps, parce qu'on ne parle que de ça finalement ces derniers temps.
Depuis un an, ouais. Enfin,
oui, depuis un an et demi, c'est dur depuis la mode Docker, c'est que Docker fournit une unité d'exécution. Et ce qui se fait au-dessus maintenant, c'est de créer des systèmes pour pouvoir gérer plusieurs conteneurs Docker. Parce que si on veut ramener des infrastructures big data, bien des systèmes distribués dans le monde Docker, il faut qu'on puisse garantir que, tiens, il faut que mon exécution soit transparente pour moi. Donc, quand si un conteneur meurt, je veux savoir que tel conteneur sera redémarré ici. Si, par exemple, créer une base de données distribuée sur des conteneurs Docker, ça devient vite un problème parce que si un conteneur est mort, on ne sait pas exactement si le prochain conteneur qui sera redémarré pourra être remis au tel endroit pour qu'on puisse avoir les mêmes données. En fait. Donc, ça crée pas mal de petits problèmes là-dedans. Et il y a des projets qui essaient de régler ce genre de problème comme Flocker dans le monde Docker. Mais dans le monde Mesos, en fait, Marathon et Mesos, c'est des trucs. Des problèmes auxquels ils pensent depuis longtemps parce que Mesos et Marathon sont utilisés de façon intense chez Twitter et Airbnb depuis bien avant la mode Docker en fait.
Ouais.
Et donc c'est des sujets qu'ils ont réussi à résoudre, enfin pas complètement, mais faire tourner par exemple des bases de données distribuées comme Cassandra qui est complètement distribuée et décentralisée, c'est quelque chose qui se fait de façon transparente dans Mesos. Et il garantit que, tiens, si j'ai un nœud qui tombe, la tolérance aux pannes au niveau de Cassandra est assurée dans Mesos, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui marche plutôt bien aujourd'hui. Et vu qu'on parlait de Docker, Mesos, donc, il supporte Docker et il supporte aussi ses conteneurs natifs, que ce soit Cgroups, les Cgroups, enfin.
Ouais.
Juste un mot sur les conteneurs. Donc, au départ, Mesos utilisait LXC.
Ouais.
Il y a les conteneurs Linux pendant longtemps.
Le papa de Docker.
Voilà, c'est LXC. Et mais en réalité, LXC, c'est plusieurs choses et des control groups. Des control groups, des user namespace, ce genre de choses et tout. Ouais. Pour gérer ça. Et évidemment, LXC entraîne beaucoup de dépendances qui sont parfois, inutiles, en fait, quand on veut créer des applications. Ce qui fait que tout le monde, en fait, est parti de LXC pour créer des trucs plus simples. Et l'unité de base, en fait, c'est les control groups. Donc, ce qui fait que l'intégration de Docker à Mesos, bah, a été quelque chose de très simple, en fait.
Ouais, puis c'était basé sur les control groups sous les deux.
Exactement. Et donc, vu qu'on veut traiter, on veut maintenant gérer des conteneurs Docker de façon distribuée pour avoir des systèmes distribués sur des conteneurs. Donc, il y a plein de projets qui existent aujourd'hui, hein, là-dessus. Mm-hmm. Et l'un des plus, celui qui est à la mode, enfin, à la mode, celui qui a pas mal de vent poupe là-dessus, c'est un truc qui s'appelle Kubernetes. Je crois que vous en parliez souvent dans les
podcasts. Ouais. On en a parlé encore la dernière fois qu'on sait pas comment on le prononce. C'est toujours
Le problème. Et je crois qu'il y a encore débat là-dessus. chacun cherche encore la bonne prononciation sur Kubernetes. Voilà. Kubernetes, c'est un système, c'est un scheduler de conteneurs Docker distribués. En gros, c'est un cluster manager. C'est un manager de cluster de conteneurs Docker. Voilà. C'est un mini Mesos pour gérer que des conteneurs Docker, en fait. Autant sur Mesos, on peut gérer des choses complètement différentes et hétérogènes. Et sur Kubernetes, il se focalise sur Mesos et de faire tourner les applications distribuées sur des différents clusters en utilisant Kubernetes. Et l'avantage de Kubernetes, c'est que Kubernetes a un seul scheduler. Kubernetes a un seul scheduler qui permet de gérer les différents conteneurs. Donc, les conteneurs qu'on veut ensemble, il les regroupe dans un ensemble qu'on appelle des pods. Et dans ces pods, en fait, on peut remettre des conteneurs ensemble. Et au-dessus, on a des services qui permettent de pouvoir aligner des conteneurs de façon distribuée pour éviter d'avoir des éléments qui tournent au même endroit. Et Mesos, il assume qu'en fait, vous avez vos ressources et le scheduler de Mesos s'occupe de gérer ces ressources en question. Et bah, en utilisant Kubernetes, si on a un conteneur Mesos qui tourne déjà, un conteneur où on a du Hadoop, où on a des choses et qu'on veut pouvoir utiliser ses ressources, et ben on peut faire tourner Kubernetes sur Mesos aussi.
D'accord. Et donc là, comme ça, on a directement l'accès à ce qui est Docker pour le relancer. Enfin, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, n'importe quel type d'application et gérer notamment la colocalisation des containers, etc. Au sein des pods.
Voilà, exactement. Donc en gros, comme tu vois, on peut faire tourner beaucoup de choses sur Mesos, en fait, que ce soit parce que donc l'idée c'est que Mesos, lui, finalement, son unité de travail, en gros, le rôle principal de Mesos, c'est il travaille comme étant juste un gestionnaire de ressources. J'ai besoin de tant de ressources, je les demande à Mesos, Mesos me les donne, et lui, il gère la partie machine derrière. Donc
c'est ça. Ouais. Donc lui, c'est vraiment la partie bas niveau. C'est une abstraction sur le hardware qui le rend sous forme de commodité de ressources. Donc
exactement.
Il fait l'abstraction pour dire voici la RAM dispo. Enfin, j'ai à disposition tant de RAM, tant de disques, tant de bandes passantes, etc. Moi, je gère ça, je le mets à disposition, on me le demande, je l'alloue, etc. Et Kubernetes au-dessus, à côté, on va dire plutôt, lui va utiliser Mesos pour faire tourner plus facilement les containers type Docker, pour justement répartir des services sur X ressources, etc.
Sur X ressources, de façon distribuée, qui garantit la tolérance aux pannes des différents services, et surtout, c'est si on a un cluster qui existe déjà, où on a des applications qui sont très lourdes, qu'on a des gros batchs qui sont atomiques ou bien pas atomiques du tout, comme des trucs sur Hadoop, sur Storm, qui sont très lourdes, sont des grosses machineries, hein, ce genre de système Big Data, ce sont de grosses machineries. Bah, quand on veut réutiliser ces ressources de façon efficace, Mesos, et c'est juste la couche bas niveau, en fait, si bien que les gars qui créent Mesos l'appellent un kernel, en fait, comme le noyau Linux, où ils gèrent que des ressources. C'est un kernel de ressources, et ces ressources, en fait, il les fournit à qui les demande. Tant qu'il les a, il gère les ressources de façon efficace, il les fournit à tout le monde. Donc, en gros, Mesos, c'est le kernel, et toutes les frameworks au-dessus, en fait, sont les init des applications pour pousser, en fait, les applications. En gros, Mesos, c'est le YaaS, enfin, pour revenir au cloud, en fait. Mm. On peut voir Mesos, c'est la partie infra du cloud, et tout au-dessus, on peut avoir tous les pass qu'on veut. Le pass peut être Kubernetes, le pass peut être Marathon, ou bien faire tourner des gros trucs comme Hadoop en temps réel et tout. Et l'avantage, c'est qu'on peut rajouter des machines, des nœuds et des ressources à volonté sur Mesos, et lui, il continue à gérer ses ressources au fur et à mesure. Et il y a beaucoup de boîtes, de plus en plus, en fait, qui ont cette façon de fonctionner. Et ça résout tellement de problèmes, en fait. Ça résout énormément de problèmes, parce que pour revenir à la data science, vu qu'on essaie de c'est le thème en fait du truc, pourquoi on en est arrivé là, c'est que dans beaucoup de projets en fait de big data, mais vraiment big data, c'est que les data scientists, en gros ceux qui font du machine learning et de la traitement de données, ne sont pas nécessairement accès à la donnée. En gros, le principal problème de beaucoup de gens qui font de la data, c'est l'accès vraiment aux données. En fait. Parce qu'en général, dans une grosse entreprise, on ne sait pas toujours où est la donnée. L'existence de l'ETL, c'est souvent ça en fait. C'est parce que on veut extraire des données de plusieurs éléments en fait, et on veut avoir les données dans un format qui soit utilisable et sans pouvoir en fait attendre qu'on ait un DBA, qu'on ait un admin sys pour me trouver telle machine, on ait tel élément pour trouver notre machine. Et ce qui fait la force des boîtes comme Google, Twitter, Facebook, c'est qu'ils ont ce genre de système comme Mesos, Yarn, comme Kubernetes, parce que Kubernetes c'est cloné sur un système interne chez Google qui s'appelle Aurora, qui est sur lequel a été construit Mesos à la base, parce que l'implémentation open source de Aurora modifiée certes, c'est Mesos.
D'accord.
C'est le même papier et c'est les mêmes gars qui ont travaillé sur Mesos sont ceux qui ont travaillé sur Aurora aussi. Et en fait, l'intérêt de ce système, c'est que ces gens ne pensent pas infra, ne pensent pas machine. Donc, quand on est data scientist, je veux un algorithme, je veux tester mon algorithme sur des données en live, ou bien sur on fait pas de sample, hein. Dans général, quand ceux qui font de la data science travaillent sur un sample de données sur une partie, donc je travaille sur ma machine, et puis je regarde les résultats, puis boum. Bah, ces gens travaillent sur leur machine pour faire écrire des tests, et ils veulent avoir les résultats, bah, ils peuvent lancer autant de jobs dans la journée sur Hadoop qu'ils veulent.
D'accord.
Et pour lancer plusieurs jobs, sur plusieurs versions de Hadoop ou de Spark de la journée, bah, il faut pouvoir gérer des ressources de façon efficace. D'où l'existence de ces frameworks-là comme Mesos, Marathon. Donc, je peux écrire mes jobs, les faire tourner sur Hadoop, prendre des résultats, les renvoyer dans mon application pour faire de la visualisation qui est du Play, du Tomcat et tout. Et ce Tomcat tourne aussi sur Mesos. Et j'ai qu'un conteneur à écrire, en fait. En gros, j'ai tout mon pipeline de travail en tant que data scientist, de traitement, de recherche, de visualisation et tout, de plusieurs différentes applications que je suis obligé de faire tourner de façon distribuée. Mais en fait, tout ça est commoditisé, en fait, avec ces plateformes, en fait.
D'accord.
Et c'est pour ça, en fait, que on en parle de plus en plus. C'est pas juste pour pousser les applications de façon jolie, mais ça a un intérêt assez très important dans le monde de la data science. C'est parce qu'on veut pouvoir arriver à un endroit où on veut, de façon efficace, optimiser le temps des data scientists, optimiser les ressources et ne pas juste avoir à travailler sur un bout de la donnée et espérer après que je pourrais faire du tuning sur mon algorithme, comment il fonctionne de façon distribuée. Non, là, en fait, même en phase d'exploration, on peut avoir une idée de façon sur mon cluster parce que moi qui travaille derrière, je vois plus mes machines comme un cluster, mais je vois juste comme un endroit où je peux pousser mes jobs.
Ouais, tu vois les ressources, t'as à la disposition certaines ressources qui te sont mises, qui sont là, et donc effectivement tu peux travailler directement sur la ressource disponible,
exactement.
Dans la limite de ce qu'il y a, mais aujourd'hui selon les plateformes sur lesquelles t'es et selon les ressources, tu peux aller très loin et effectivement aller directement sur des traitements réels dès le départ et non pas attendre la dernière minute pour te dire bah je vais essayer de tester voir ce que ça donne une fois que j'ai passé des jours et des jours à mettre au point mon truc. Là tu peux directement le faire sur les vraies données.
Exactement, c'est ça. Et il y a un data scientist, enfin oui, il est data scientist, il s'appelle comme ça, mais en fait c'est un vrai développeur, c'est un vrai codeur qui est chez Twitter, qui s'appelle Oscar Boykin. Il a créé plusieurs frameworks en fait qui sont utilisés dans le monde big data, qui fait beaucoup de Scala justement. Il s'appelle Scalding, c'est une façon d'écrire des jobs en MapReduce sur Hadoop. Et ils ont une maxime en fait chez Twitter, qui est hash dans le sample en fait. En gros, eux, ils travaillent pas sur des données en forme de sampling en fait. En gros, ils travaillent pas sur une extraction toute physique des données. Mais quand ils veulent faire des algorithmes et tester même en phase de développement, bah, ils travaillent sur tous les algorithmes en fait, tous les gros volumes des données qu'ils ont. En gros, ils font tourner des jobs mais sur l'ensemble des données. Et pour cela, ils font du hashing, des techniques et tout. Mais ce qui leur permet en fait, en termes d'infrastructure derrière, c'est que ces gens ne pensent pas que quand je fais tourner mon Hadoop, ah non, il faut que je pense à tiens mon master Hadoop est là-bas. Ah tiens, mais oui, mais c'est sur tant de machines, il faut qu'on m'alloue tant de machines pour tester. En fait, ils n'ont pas ce problème en fait. Ils ont juste un endroit, ils poussent leur job et tous les différents jobs qui tournent sur plusieurs Hadoop qu'ils ont en prod, ils tournent tous sur Mesos.
D'accord. Ouais. Et donc ça rend transparent les notions d'environnement grave, ouais. Où avant on était pareil à se trimballer quand on faisait de tels développements, on avait un environnement de test, un environnement de pré-prod, un environnement de prod, et donc il fallait à chaque fois demander à répliquer la prod sur la pré-prod et puis sur l'environnement de test pour ben pouvoir travailler. Et puis on était toujours à J-1, J-5, J-25. Là ici, ça rend complètement fluide le fait d'avoir accès à ces ressources-là puisque on a accès directement à la donnée d'origine, tout du moins des copies, et ça comme on veut, puisqu'elles sont extraites directement de la production.
Oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment au-delà de la data science qu'on fait en termes de... sur une machine, hein, parce qu'il y a beaucoup d'outils pour faire de la data science, ça peut être du MATLAB, du Python, du Java sur une machine et tester sur un petit volume de données, mais quand on passe à l'échelle, dans un monde où on a énormément de volume et qu'on est obligé de le faire plusieurs fois pour optimiser, les algorithmes ne fonctionnent jamais de la même façon, en fait. Et donc, on est obligé, le plus intéressant, ce qui compte vraiment, c'est de pouvoir tester les données, ces algorithmes, mais en live sur les données. Ce qui fait que tous les algorithmes, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, pour ceux qui font de la pub, ces algorithmes sont modifiés de façon journalière, comme quand on fait du continuous deployment, en fait, sur des tests, de la test à la prod, les algorithmes, ça marche de la même façon. En gros, c'est ramener vraiment, l'ingénierie logicielle telle qu'on l'a, en gros, les mêmes principes de test, de déploiement et tout, mais de façon continue, d'avoir un pipeline qui soit fine, qui soit fin et tout, ça, on le ramène au monde de la data. La différence, c'est que c'est compliqué à faire quand on n'a pas des systèmes pour pouvoir soutenir ça. En gros, parce que tout est distribué. Et évidemment, quand on est distribué, ça veut dire ça ramène des problèmes avec tout seul.
C'est ça.
Voilà. Donc, avoir un système qui permet de faire ce genre de choses, c'est assez important. Et dans beaucoup de projets big data, on a souvent ce genre de problème parce que tout simplement les algorithmes qu'on a souvent marche très bien en local, comme on dit, works on my machine, quoi.
Ouais, ça, ouais.
Et quand on arrive à l'échelle, quand on est obligé de travailler sur des pétaoctets de données, c'est plus vraiment de la même façon. Et donc, oui, c'est un peu ça. Mais c'est un monde qui n'arrête pas d'évoluer, quoi. Il y a des évolutions là-dedans. Je pense qu'on en est encore au début. On est encore au début là-dedans.
Ce qui m'interpelle par contre là-dessus, c'est comment ça se passe, on va dire, au niveau, parce que là, donc finalement, je vois qu'on met pas mal de couches, parce qu'on a nos couches, les couches hardware, on a déjà les couches hardware, au-dessus, potentiellement, on a des machines virtuelles ou pas, au-dessus, on a des containers ou pas, et enfin, on trouve nos vrais traitements et tout ça. Comment est-ce que ça se passe dans ce monde-là pour tout ce qui va être, on va dire, monitoring, supervision, parce que c'est ce que tu disais, faut être tolérant aux pannes, faut pouvoir un peu pareil gérer le capacity planning, les problématiques de ressources, de est-ce que j'en ai donné assez ou pas, comment c'est ces outils là tels Mesos et autres qui fournissent des vues qui vont permettre de voir un peu ce qui se passe de haut en bas, ou c'est d'autres outils encore qui gèrent tout ça?
L'avantage en fait du monde Hadoop, c'est que l'écosystème open source autour de ce monde là ou du monde big data en général, pas que Hadoop en fait, l'écosystème autour de ce milieu est assez large. Et un autre avantage, c'est que beaucoup de ces systèmes sont écrits en Java, sur la JVM en tout cas. Et sur la JVM, on a beaucoup d'outils pour pouvoir recolter des métriques.
D'accord.
Et donc faire du monitoring, savoir comment ça va, Mesos fournit des outils pour monitorer en fait comment ça se fonctionne au niveau du conteneur, au niveau des ressources qui sont sur chaque nœud, la manière dont la RAM fonctionne, en fait. Il a une Mesos sur une console qui permet de faire ça. On peut faire des alertes, mais plugger du JMX là-dessus et savoir comment ça évolue derrière. Dans le monde Hadoop aussi, on peut faire exactement la même chose. Mais Hadoop aussi, il y a un projet dans le monde Apache qui s'appelle Ambari, je crois. Et Ambari, on peut faire du provisioning, manager tous les clusters et monitorer, en fait, tous les clusters Hadoop, en fait. Et ça, c'est vraiment, en fait, l'outillage est assez évolué. Évoluer en tout cas, oui, c'est pas encore parfait, mais on a tous ces problèmes, en fait, c'est des problèmes auxquels les gens ont pensé depuis longtemps, parce que ça fait quand même un petit moment, et surtout, évidemment, quand on arrive à travailler sur des milliers de machines et tout, même si on a des niveaux d'indirection là-dessus, on veut avoir une vision de comment nos systèmes performent, en fait. Et donc oui, il y a beaucoup d'outils de monitoring, de provision, de tout ce qui est DevOps là-dessus, en fait. On a des projets comme Ambari, on peut plugger du JMX, moi je le fais souvent sur des clusters Spark, par exemple, plugger du JMX, ou bien le plugger sur du New Relic, ou bien sur Datadog, un truc que j'utilise assez marrant, et avoir mes alertes en fait sur mon téléphone ou bien sur mes mails directement qui viennent et tout, et savoir en fait comment évoluent mes clusters. Non, mais parce que en fait, en réalité, l'un des problèmes, enfin c'est l'un des avantages et l'un des problèmes d'Hadoop, c'est que Hadoop ou bien Spark, hein, je dis Hadoop, j'englobe tout ce monde de Big Data, c'est que en réalité, c'est des systèmes qui sont faits pour des développeurs ou bien des gens qui font du DevOps, en fait. Parce que ça inclut tellement de concepts systèmes là-dedans pour comprendre comment ça tourne et le faire tourner de façon correcte, qu'en réalité, il faut avoir un bon, une bonne connaissance, en fait, des outils de la partie système pour faire tourner un cluster Hadoop. Ce qui fait que pour des développeurs, faire souvent un Hello World sur Hadoop et monter un cluster, ça devient vite fastidieux, quoi.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que bon, j'ai regardé après vite fait, c'est toutes ces notions-là. Bon, personnellement, effectivement, je suis pas du tout expert sur cette partie-là aujourd'hui. Mais c'est vrai que oui, ça a pas l'air d'être évident. Et donc, non. C'est quoi? Parce que on voit, bon, là, tu le disais, derrière ces projets-là, ce sont des grosses entreprises du web, des Google, des Twitter, des Facebook, et j'en passe, et des meilleurs. Ouais. Maintenant, dans nos entreprises de tous les jours, alors moi, je suis chez un éditeur exoplateforme, mais c'est vrai que là, quand on en parle, moi, je vois plein de use cases pour, par exemple, l'abstraction de notre offre cloud pour pouvoir déployer plus facilement. J'y vois pour notre offre aussi, enfin, pour nos outillages internes d'acceptance où j'aimerais bien aussi fluidifier un peu toutes les parties déploiement, etc. Mais on imagine dans une banque, chez un assureur, chez même une PME, ou etc., qui ont des données à gérer. Comment on s'y met? Qu'est-ce qu'on fait pour justement se lancer là-dedans et essayer de pas s'y perdre, parce qu'il y a quand même, donc on a listé pas mal d'outils, pas mal de choses à voir. On commence par quoi? On commence par du bas niveau, on commence déjà par du Mesos, par mettre en place. On fait quoi finalement?
Ah, vaste question. Parce que je pense que en fait, il faut voir exactement ce qu'on veut faire dès le départ. Moi quand j'ai commencé là-dedans, moi j'étudiais les systèmes, la programmation distribuée en fait, je fais mes études là-dessus, donc c'était assez naturel de rentrer là-dedans, de comprendre un peu ce qui m'intéressait, c'est vraiment comment ces systèmes distribués fonctionnent. Donc au bout d'un moment, c'est vraiment la partie la plus intéressante pour moi, c'était celle-là. Et évidemment, pour rentrer là-dedans, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Si ce qui nous intéresse, c'est de faire tout ce qui est les DevOps sur des plateformes big data, sur la partie architecture, application, déploiement, là, il faut commencer par Hadoop. Bon, il y a des entreprises, hein, comme tu citais tout à l'heure, tout ce qui est banque, éditeur chez vous, bon, il y a des boîtes qui fournissent du support là-dessus. Ouais. Mais aujourd'hui, en fait, quand on construit, en fait, une infrastructure, en général, on part pas sur des gros déploiements, hein. On commence par un truc tout petit, monter un petit cluster Hadoop avec une distribution, que ce soit Cloudera ou Hortonworks ou Mapper et tout, c'est assez simple.
Ouais.
C'est une VM à télécharger, plusieurs VM, on a des outils qui sont parfois, je crois, à bout de clic, et puis boum, on a un cluster qui tourne, ça c'est assez automatisé, ce genre de choses, c'est assez simple. D'accord. Et, le premier problème commence à venir quand on commence à avoir des centaines de machines. Là, ça devient différent. Et là, on commence à avoir, tiens, on veut pouvoir gérer ça de façon efficace, et on veut faire tourner autre chose que du Hadoop, donc des applications différentes, que ce soit du Spark et tout. Et beaucoup de ces distributions viennent avec des choses comme Yarn, dont j'en parlais en fait, qui sont là-dessus. Et avec ça, on peut déjà faire tourner les autres d'autres éléments Big Data là-dessus. Bon, je suis pas un gros fan du truc, parce qu'en général, je fais tourner autre chose. Et commencer avec Mesos par exemple, parce que Mesos, je trouve qu'il est plus générique et plus général pour faire tourner différents types d'applications. Le site de la fondation Apache sur Mesos, il est très muet en termes de documentation. Il y a pas grand chose en fait, il y a rien. Ouais. Oui, c'est juste horrible. Il y a rien. Et d'accord. Heureusement, il y a une boîte qui est derrière en fait, qui fait du support sur Mesos, s'appelle Mesosphere. Ouais. Et Mesosphere fournit énormément de tutoriels pour commencer sur Mesos. En gros,
d'accord.
Si vous avez par exemple, il peut vous aider à monter un cluster à coup de clic sur Google Compute Engine par exemple.
Ouais.
Ils fournissent des packages Debian pour monter toute l'infra Mesos à coup de tutoriels et tout. vous voulez déployer un Hadoop, bah vous allez là-dessus, il y a plein de tutoriels pour pouvoir déployer du Hadoop, du Storm, pousser des conteneurs, faire créer une ferme de Jenkins sur Mesos comme le fait par exemple eBay. Mm-hmm. Créer tout, en gros, c'est créer, j'espère que Nicolas n'entend pas ça, créer son petit Cloud Biz sur Mesos. Oui, c'est en fait c'est marrant et on mettra le lien dans le show notes, mais c'est un truc assez drôle, c'est que les gars de eBay en fait ont créé quelque chose qui ressemble à CloudBees sur Mesos. Et et maintenant ils l'ont modifié pour pousser des conteneurs en fait avec du Jenkins, avec des master Jenkins et tout là-dessus qui tournent. En gros c'est un vrai CloudBees mais qui tourne sur Mesos. il manque le truc devant, tu dis waouh. Je dis ok. Et il dit c'est assez drôle en fait. Voilà, il a fait des trucs assez marrants là-dessus. Et voilà, donc la documentation est assez intense et surtout en fait commencer par sur Mesos. La partie système là-dessus, ça résout tellement de problèmes auxquels on n'est pas obligé de penser, provisionner des machines, en gros écrire des scripts chef, tout ça, que là en fait c'est du script, c'est des commandes à faire. Tiens, je veux lancer tel cluster, bah tu me lances telle machine et tout, tant de framework, je veux Yard, je veux Hadoop qui tourne, je veux Spark, je veux ça, et on arrive à gérer ça. Et finalement le cycle en fait, le temps de passage entre la création du cluster et le développement du Hello World, en fait, pour faire tourner là-dessus. En général, moi, ça me prend une heure, en gros, hein. Parfois, ça me prend même beaucoup moins. C'est vraiment assez simple, en fait. On passe pas beaucoup de temps, finalement, à créer toute une infra distribuée parce que les outils sont là. Donc, c'est vraiment le site de Mesosphere. C'est le truc, je crois, qui a rendu beaucoup service à Mesos parce que leurs tutoriels sont très bien et c'est assez guidé. Et en plus, ils ont le système de tutoriel, en fait, où il y a ils ont une sorte de shell sur le web, de shell bash en fait qui est embarqué sur la page. Donc en gros, ils vous montrent comment les commandes évoluent au fur et à mesure. En
d'accord, gros, c'est vraiment un peu comme le tutoriel Docker, je crois.
Exactement. Assez. En gros, on voit vraiment de façon visuelle. Du coup, au bout de 5-6 commandes, on a quelque chose qui tourne et tout. Et boum, quoi. Voilà, génial. Ok, cool. ça marche. Donc ça, c'est la partie infrastructure et la partie data engineering en fait derrière. Maintenant, il y a aussi, c'est une question qui revient souvent, en fait, c'est comment commencer par la data science. On voit la partie très haut niveau. Et là, il n'y a pas... Comme je disais, data science, ça inclut beaucoup de choses. Donc, il y a des maths, il y a de l'intelligence artificielle, évidemment. Il y a comprendre comment est la donnée pour la traiter. Et sur cette partie, en fait, moi, ce que je conseille souvent à beaucoup de gens, c'est de commencer par un truc qui est tout simple, qui est très marrant, un truc très connu qui s'appelle, qui est sur Coursera. C'est un MOOC. Qui est la plateforme Coursera. Il y a un cours qui est très populaire dans Coursera et qui n'est jamais enlevé de toutes les manières, c'est le cours sur du machine learning, en fait, par Andrew Ng, qui est le fondateur de Coursera, qui était, je crois qu'il est toujours d'ailleurs, le directeur du laboratoire d'intelligence artificielle de Baidu et de Stanford aussi. Et c'est le fondateur de Coursera, le cofondateur de Coursera d'ailleurs. Donc il a un cours là-dessus sur du machine learning. En gros, c'est une introduction au machine learning. En gros, ils utilisent un langage qui est une sorte de MATLAB qui s'appelle Octave, je crois. Mais en fait, ça donne des bases, des rappels en fait en termes de maths, comprendre comment sont les matrices, les calculs vectoriels, comprendre les algos les plus utilisés. En gros, une fois qu'on finit ce cours, on a une bonne petite base pour aller un peu de l'avant encore. C'est vraiment c'est quelque chose que je conseille souvent. Bon, il est en anglais certes, mais je pense que c'est vraiment, vous voulez commencer en machine learning, comprendre comment est la data, c'est vraiment le truc sur lequel il faut commencer à avoir une idée. Et après, sur Coursera toujours, il y a plein de cours là-dedans pour tout ce qui est data science, sur tout ce qui est statistique, parce que ça reste quand même assez important, les stats. Et il y a aussi un cours qui est sur Introduction to Data Science aussi sur Coursera. Mais et là, en fait, il y a tout le scope dont on a parlé en fait sur tout le podcast, ou qui montre en fait de la partie data science, qui parle de Hadoop, qui parle de machine learning sur Hadoop, de machine learning tout seul sur des trucs. En gros, tout le scope en fait, je crois en 6 semaines, ça peut être marrant. Et dans le monde, en gros, sur Internet, les ressources, c'est vraiment pas ce qui manque en ce moment. Et il y a plein de choses. Mais vraiment, c'est de commencer très bas. Commencer par une introduction à tout ce qui est machine learning pour voir ce que c'est faire data science, ce qu'on peut faire. Et il y a aussi un autre truc qui est, une fois qu'on a fini ce cours, c'est de se frotter un peu au monde de la vraie data science. Il y a un site de concours en ligne qui s'appelle Kaggle. C'est K-A-G-L-E. Kaggle.com. Et Kaggle, en fait, c'est un site de compétition de machine learning. En gros, c'est là où les data scientists vont montrer qu'il y en a qui a le plus gros cerveau, quoi.
D'accord.
Et là-bas, et en fait, c'est des boîtes qui viennent proposer des sujets, qui proposent des sujets réalistes, hein, qui sont de vrais problèmes et tout. Et pendant un ou deux mois, ou trois parfois, tous les data scientists du monde se tapent là-dessus sur un problème, ils vous fournissent des données, ils vous fournissent comment, et à vous de résoudre en fait le problème. Et c'est un bon moyen de commencer et de se faire remarquer aussi. Je connais beaucoup de gens qui se sont fait remarquer là-bas, qui ont fini chez Facebook et chez Google par exemple. Et c'était pas des data scientists à la base.
Ça peut être sympa. Ça peut
voilà,
être sympa.
Ça peut être sympa. Donc c'est vraiment un truc assez marrant, comprendre dans le machine learning. Il y a pas de magie derrière. Hein. Les gens pensent que quand on dit machine learning, c'est beaucoup de maths compliquées. En fait, c'est beaucoup de skills de coding, en fait. On comprend la donnée, c'est codé, et la partie machine learning, on réécrit pas ces algorithmes de machine learning parce qu'on a les outils pour ça. On a des librairies de machine learning qui existent.
Ouais.
Tout, oui, il y a, dans Spark, il y a une librairie qui est embarquée à l'intérieur qui s'appelle MLlib. Dans le monde Hadoop, il y a une librairie qui s'appelle Mahout, qui cible principalement Spark. Si vous voulez faire du R, qui est le langage de statistique, il y a aussi des livres de machine learning embarqués là-dedans. Et il y en a une autre librairie qui est très connue, mais qui est en Python, qui est beaucoup de, dans le monde machine learning, de data science, Python est un langage qui est vraiment utilisé. Bien au Java. Très, très, très utilisé. C'est le langage, en fait. Voilà.
D'accord.
Parce que, SciPy, NumPy et tout, c'est les choses qui sont optimisées pour traiter de la donnée, en fait. Il y a beaucoup, le monde scientifique a investi beaucoup d'efforts là-dedans pour créer des librairies et des frameworks, en fait, pour traiter des données. Ce qui fait que Python est vraiment le truc que beaucoup de data scientists utilisent. C'est beaucoup, c'est vraiment l'outil, le petit langage que je dis toujours à connaître.
Ouais.
Parce qu'on peut faire beaucoup de choses en Python. On peut faire du code système là-dessus, faire des scripts, au-delà de bash et tout, appeler du code bash sans problème en mettant juste un truc en commande sur l'interpréteur Python. Ou bien écrire aussi faire de la donnée, faire du machine learning sur le même langage, sur la même plateforme. Et Python, c'est vraiment le truc qui est vraiment le moi je conseille souvent même aux gens qui font du Java, apprendre du Python, c'est pas compliqué quand on a appris à faire du Java et du Maven, sérieux.
C'est clair.
Voilà. Et donc c'est un langage qui est assez simple et qui est parlant, et c'est surtout que les librairies dans Python sont assez simples, assez compréhensibles, avec des API qui sont assez fluentes en fait pour faire des choses assez intéressantes. Donc Python, il y a scikit-learn comme librairie là-dedans, et il y a plein d'éléments. Et allez sur Kaggle, essayez-vous sur des vraies données, Coursera, il y a plein de bouquins assez simples, Machine Learning for Hackers, pour comprendre par exemple comment tu peux écrire un filtre de spam par exemple en utilisant du machine learning. Ça c'est assez marrant. Les ressources c'est pas ce qui manque. Le problème c'est de commencer quelque part, et en général pour commencer je conseille souvent que aller sur Coursera et le site de machine learning et tout. Le cours d'introduction au machine learning de Stanford, il est très bien.
Et du fonctionnel là-dedans, parce que t'as parlé de Python, mais donc avoir des connaissances en langage fonctionnel, ça me paraît aussi utile.
Oui, c'est l'autre niveau, mais c'est pas partagé par tout le monde. Mais oui, d'accord. Moi je fais de la data science, mais je le fais en Python ou quand je peux en Scala.
Ouais, c'est ça. Voilà. Scala, je sais que t'es assez fan du Scala, mais voilà, c'est quelque chose qui est quand même pas mal pour modéliser un peu le
traitement
des données. Ouais.
Simplement parce que quand on travaille sur des données, en fait, on fait une succession de transformations. Donc, on applique une fonction qui fait une transformation, on applique une suivante qui fait une seconde formation, une transformation au fur et à mesure. Donc, la composition et, en fait, les langages fonctionnels, c'est function and data, en fait. En gros, c'est des fonctions et de la data. En gros, c'est
immutable.
Tout est immutable et tout. Et ça, en fait, c'est naturel, en fait, de traiter de la donnée là-dessus, faire des transformations. C'est pas pour rien que des frameworks comme Spark a été écrit en Scala, par exemple.
Ouais, c'est ça, ce que tu dis. Spark, c'est du Scala.
Voilà, Spark est écrit en Scala. Il y a une API en Scala et en Java et une autre en Python aussi. Mm. Mais, oui, c'est, vraiment, dans ce qu'on voit en général pour faire du machine learning, sur son poste de travail, on fait du R ou bien du Python. Des trucs parce qu'on peut prototyper très facilement petits problèmes sur des petits datasets. Dès qu'on veut passer à l'échelle très large, avant on écrivait ça en Java avec du Mahout, avec tous les frameworks qu'il y a autour. Aujourd'hui de plus en plus, on écrit ça en Scala. C'est vraiment, en fait, il y a un endroit où Scala, je trouve qu'on en parle très peu, mais où Scala a vraiment percé, c'est dans le monde Big Data. C'est juste effrayant. C'est hallucinant. C'est vraiment l'endroit où Scala a percé. C'est le côté avoir un langage statique où on peut faire des opérations et décrire des algorithmes, des transformations, mais en quelques lignes, en fait. Des API qui sont très simples, hein, en ce cas-là. Écrire du MapReduce, des éléments MapReduce, en ce cas-là, c'est le code. Parfois, on dit, ouais, il fait tout ça, quoi. Oui, bah, après, on l'applique sur un pétoctet donné, quoi. Hein, voilà. Et c'est ça. Et oui, c'est vraiment ce cas-là. Il y a de plus en plus de librairies là-dessus. Et Spark en ce cas-là, donc on arrive à faire des choses assez marrantes. Et surtout Spark, il a un shell en fait, un Ripple en fait, comme celui de Groovy, qui en a un, ouais. Groovy shell, bien celui de Lisp, un Ripple. Et Spark, c'est en fait, sur un terminal, on peut interagir avec un cluster Spark directement. Donc en gros, tiens, fais-moi telle transformation, c'est génial. T'as saisi ses commandes et boum, il les envoie sur un cluster. Et de plus en plus. La mode qui vient surtout du monde Python, parce que dans le monde Python il y a ce qu'on appelle des notebooks en fait, qui vient du IPython notebooks, ePython notebooks, c'est la version interactive de Python, c'est d'avoir en fait une sorte d'éditeur mais sur le navigateur en fait.
D'accord.
Donc en gros j'ai une sorte d'éditeur qui est très simple où en fait je peux décrire mon cheminement. J'ai dit tiens j'ai pris telle donnée de telle API par exemple, j'ai rappelé des données sur Twitter, donc j'écris mon code, le code est bien indenté avec une coloration syntaxique, j'ai les résultats sur le truc sur le navigateur et je en fait tout mon cheminement de pensée et de travail je l'écris sur le navigateur au fur et à mesure. En gros c'est vraiment le truc est assez visuel. On mettra dans les show notes des exemples de notebooks ouais. Python par exemple et il y en a de plus en plus en fait qui le font en ce cas là sur Spark. D'accord. Et je crois que là il y a des versions aussi qui le font en Java mais j'en ai pas encore vu d'aboutir en fait, mais en fait c'est vraiment l'endroit parce que je peux prendre mon notebook Python et le mettre sur un serveur ou bien sur GitHub, et sur GitHub il y a des éléments qui permettent il y a des sites qui permettent de visualiser mon notebook. En gros je n'ai pas juste un bout de code qui me dit voilà le début du code et voilà la fin, mais en fait j'ai le cheminement, j'ai les résultats qui sont affichés, j'ai tel élément, parce que quand on construit un algorithme ou un process de data science, c'est souvent on veut pouvoir le reproduire en fait, la reproducibilité en fait de la recherche sur ce qu'on fait, de l'exploration, et ben on l'a en fait sur des notebooks en fait, et c'est vraiment plein de ces outils qui font que c'est un domaine qui est en pleine explosion aujourd'hui. On arrive à faire des choses assez intéressantes avec ça, mais l'outillage c'est assez important. Donc Python, Scala, commencer par des cours tout simples et tout, c'est des langages fonctionnels comme Clojure, bon pour ceux qui sont allergiques au Lisp.
les parenthèses,
oui. Mais ça, je crois que c'est le truc sur lequel on s'habitue très vite finalement et tout. C'est parfois l'écriture inversée ou je sais pas, un fixe.
Ah oui, voilà. Les postfixes.
Le postfixe et tout, c'est le truc qui parfois moi me fatigue très vite, mais après. Une fois que je le fais 2-3 jours, après c'est parti, ça revient.
Oui, c'est ça, c'est une question d'habitude. C'est vrai que c'est langage. Plus une question d'habitude. Faut juste être dedans et avoir l'esprit qui se met en mode du langage en question, parce que c'est une habitude, ouais, c'est clairement une habitude à avoir.
Voilà, absolument. Donc oui, il y a plein d'outils comme ça, et surtout en fait moi ce que j'aime bien parce que il m'arrive de donner des cours à des étudiants par exemple, et j'aime bien en fait que quand ils font des éléments, tout leur process en fait, il est décrit logiquement. Ils me fournissent pas juste un bout de code avec que je dois exécuter avec un exécutable. Mmh. Ils me fournissent un notebook qui est exécutable chaque fois, ou quand la manière dont ils traitent la donnée, quand ils font tourner l'algorithme, quand ils tuent en fait, il apparaît sur une page. Et ouais, ça c'est assez marrant comme chose, comme truc en fait, c'est très bien. Maria fait des trucs assez intéressants.
D'accord. Bah merci beaucoup en tout cas pour tous ces détails. J'espère que tous les auditeurs vont avoir apprécié cet épisode sur la data science. On va avoir mieux compris. Personnellement pour moi ça restait très flou avant d'en parler avec toi. Là maintenant effectivement j'y vois beaucoup mieux. Et puis on mettra sur les show notes tous les liens et tous les sujets là qu'on a abordés pendant l'épisode, de manière à ce que vous puissiez consulter tout ça. Et puis je te remercie beaucoup. Merci beaucoup Sam.
Mon plaisir.
Passez une bonne journée
à tout
le monde.
Merci.
Allez, au revoir.
Bye bye.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com. podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express. www.touilleur-express.fr